Bonjour à tous et bienvenue sur Chalalove, votre dose d'amour bimensuelle. Tous les 15 jours, un couple qui nous ressemble accepte de nous dévoiler les petits secrets qui rendent leur relation aussi unique. On parle tout autant de ce qui marche pour eux, d'erreurs ou d'enseignements, ou encore de leurs plus beaux souvenirs ensemble. L'objectif, c'est qu'en une trentaine de minutes, vous soyez inspirés bien sûr, mais aussi que vous puissiez au travers de ces expériences partagées, apprendre de nos invités toutes les astuces qui font le secret de la longévité. Si le podcast vous plaît d'ailleurs, pensez à vous abonner sur iTunes pour ne rater aucun épisode et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot doux ou une note 5 étoiles sur l'application iTunes, cela nous aidera énormément à partager tout cet amour autour de nous. Aussi, si vous souhaitez en savoir plus sur nos invités, vous pourrez retrouver leurs contacts et notre univers en allant simplement sur le site de Gemio, www.gemio.com. Mais passons maintenant à nos invités du jour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Lucie et Maxime. Marie-Lucie et Maxime sont ensemble depuis environ 5 ans, après une rencontre assez improbable à une soirée dansante. Ils se retrouvent assis par hasard à la même table alors que Marie-Lucie est invitée et que Maxime est un prestataire de la soirée. Coup de foudre immédiat. Mais leurs situations personnelles sont très différentes puisque Maxime a 16 ans de plus que Marie-Lucie, encore étudiante à l'époque. Depuis, mis à part la présentation aux parents, pas si simple dans ce contexte, Maxime et Marie-Lucie filent le parfait amour. Ce n'était pourtant pas si évident, notamment pour Maxime qui ne croyait plus vraiment à l'amour avant de rencontrer son âme sœur, Marie-Lucie. Je suis Pauline Léniaud et ce podcast vous est proposé par la maison de joaillerie Gemio. Salut Marie-Lucie et salut Maxime et bienvenue sur Chalalove.
Salut.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, on est ravis de vous accueillir et pour commencer, on aime bien vous demander de vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes ?
C'est bien urbain. Je suis Marie-Lucie, j'ai 25 ans et je suis consultante en digital workplace dans un cabinet qui se dit Consultech.
Très bien.
Je suis Maxime, j'ai 41 ans, je suis dans l'assurance qualité, majoritairement dans le jeu vidéo.
D'accord.
Et donc je suis un geek.
Très bien, assumé.
Complètement assumé, bien sûr. Et voilà.
Super, merci beaucoup.
De toute façon, il me trompe avec Candy. Hein, donc.
D'accord, avec des jeux vidéo. Bon, bah, c'est bien. Je commence à noter déjà 2-3 sujets pour la suite. Rangement, jeux vidéo, tout ça, tout ça. Mais avant de parler de tout ça, ma première question en général, c'est tout simplement que vous nous expliquiez comment vous vous êtes connus, comment vous vous êtes rencontrés. Mmh. On peut commencer par toi, Marie-Lucie. Tu m'as envoyé un long mail pour m'expliquer tout ça. Donc vas-y, explique-nous un petit peu quel est le début de votre histoire.
Alors, on s'est rencontrés il y a 5 ans exactement, lors d'une soirée, d'un bal. Et de mon côté, c'était un peu par hasard que j'y suis allée parce que je consultais mon compte Facebook.
D'accord.
Et je vois qu'un de mes amis participe à ce bal. Donc, je me dis, c'est peut-être l'occasion d'y aller et de sortir un peu. Donc, je l'appelle parce que j'apprends en plus qu'il est un des organisateurs. Et il me fait, mais viens, pas de souci. Je t'envoie le bulletin d'inscription. Donc, il m'envoie le bulletin d'inscription. Et à la fin, je vois, souhaitez-vous être assis dans la table des célibataires ?
Ah.
Étant célibataire à l'époque, hein. Bon, allez, pourquoi pas.
Ouais.
Je vais donc à cette soirée et grande surprise en fait, la moyenne d'âge là-bas, je plaisante pas, c'était 60 ans.
Ah oui.
Donc du coup, je me dis...
Tu t'y attendais pas.
Exactement, je me dis, mais où je suis tombée concrètement? Donc bon, je fais quand même un effort, hein, vu que j'ai payé les frais d'inscription, ils étaient assez élevés. Je me dis, fais un sourire et va faire du social un peu avec tout le monde. Donc je discute. Et donc je vais à cette fameuse table de célibataires.
Où il n'y a que des personnes de 60 ans.
Exactement, accompagnées de jeunes filles. Donc je me dis,
intéressant.
Finalement, c'est pas si célibataire que ça. Donc pour le coup, je me retrouve vraiment la seule célibataire durant cette soirée. Et... À un moment donné, normalement, à côté de moi, il devait y avoir une jeune femme qui s'appelle Estelle. Elle s'appelait Estelle, qui n'est jamais venue. Mmh. Et donc, Maxime, à ce moment-là...
C'est là où, logiquement, c'est ma version de l'histoire qui intervient.
Ouais, vas-y.
Donc, cette soirée-là, moi, pour ma part, je n'y suis pas allé en tant que client, j'y suis allé en tant qu'intervenant. Parce
D'accord.
qu'à cette époque-là, je travaillais avec un ami... qui faisait des vidéos, mm-hmm. des vidéos de mariage, des vidéos professionnelles
okay.
Pour des entreprises et autres. Et là, nous étions avec notre cliente qui avait aussi une table célibataire, alors pas la même, c'était même à l'opposé de la salle, pour son site Elite Connection, je ne sais plus exactement. Et on devait filmer en fait les différents célibataires qu'elle avait ramenés et montrer un petit peu comment ça se passe, la soirée, etc. Donc nous, en fait, on est rentrés sans payer. sans payer. Et donc on filme, et notre client nous dit, bon voilà, pour ce qui est du repas, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des personnes qui se désistent, donc vous trouverez sûrement une place ou une autre qui va se libérer, etc. Donc du coup vient l'heure du repas, et on se retrouve à, bon, où est-ce qu'on s'assoit ? Parce que c'était un petit peu la cohue, on était un petit peu gênés aussi de s'asseoir à une place où il y avait encore quelqu'un. Finalement, on jette notre dévolu sur cette fameuse table des célibataires. Donc, je m'assois à cette table, et mon ami s'assoit aussi à la table en face de moi.
C'est très important, en fait, cette partie. Enfin, c'est déterminant dans notre histoire, quelque part, parce que donc, il y avait la table était ronde et il restait deux places vides, une à côté de moi et une à l'opposé.
Oui. Vous n'aurez pas trop parlé avec cette personne, finalement.
Non, techniquement, non, mais surtout, en fait, oui. Donc, du coup, son ami aurait pu venir à côté de moi et. Peut-être j'aurais jamais pu rencontrer Maxime. Bon, après, il m'a posé la question, est-ce que quand même... Je lui ai dit oui. De toute façon, quand je l'ai vu, même si il s'était assis à côté de moi...
Tu aurais eu envie d'aller lui parler.
Voilà, exactement.
C'est là, en fait, où les deux histoires se rejoignent. C'est dès l'instant où moi, je me suis assis à côté de Marie-Lucie. À peine assis, elle se retourne, elle me parle. Je me retourne, je vois... Waouh !
Pas mal.
J'ai fait encore cet effet, là, tout de suite.
Et donc, vous commencez à discuter, tout simplement.
Le plus naturellement du monde. On ne se connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et
ça coule de
source, normal. Et en fait, j'en oubliais presque mon ami, le caméraman que
le
je devais faire pour lui.
Le pauvre qui était en face, qui devait bosser, toi, en plus.
À la base, je devais tenir la caméra pendant que lui interviewait les célibataires. Donc, parfois, il revenait vers moi. Bon, Maxime, va falloir bosser, là. Oui, bon, d'accord.
Et moi, j'avais juste une envie, c'est qu'il reste. Et tant pis s'il avait du travail. Donc, moi, j'ai pas fusillé du regard son ami, mais j'étais pas contente au fond de moi. J'étais là, mais non, mais j'ai envie qu'il reste. C'est pas grave, à faire le travail tout seul. Et donc, durant quand même, au fur et à mesure de la soirée, il y a eu la partie ensuite dansante. Moi, entre-temps, je suis allée me changer. Je me suis dit, mais il est où, Maxime ? Et à un moment donné, en fait, on cherchait quoi, pour se retrouver finalement. Et ce soir-là, j'étais plutôt dans une optique où je ne cherchais pas à séduire quelqu'un, où je m'attendais à tomber finalement amoureuse. Et ce qui était drôle sur la piste de danse, où finalement, parfois, c'est le bon moment pour montrer ses atouts et pour plaire. Et là, dans ma tête, j'étais là, non, mais lui fais pas la pub L'Oréal, les cheveux dans le vent, ou un peu ta chaudasse pour lui montrer que ça a ondulé ton cœur. Et j'ai pas pu m'empêcher.
D'accord, donc t'as quand même un petit peu attaqué sur la piste de danse.
Ouais, j'ai quand même un peu attaqué, oui.
Et Maxime, ta réaction à ce moment-là, c'était plutôt ouvert d'esprit, réceptif.
Bien, en fait, plutôt réceptif, oui. D'autant plus que Marie-Lucie m'a tapé dans l'œil
immédiatement,
tout de suite. Sachant qu'il faut savoir que moi, à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement timide.
D'accord.
D'un point de vue relationnel, d'un point de vue drague, je ne drague pas. Je ne sais pas draguer, je ne sais pas comment faire. Mais ce soir-là, en fait, toutes les fois où j'étais avec cet ami, que j'ai connu en fait dans des soirées célibataires, j'ai commencé à essayer une soirée célibataire.
Un bon pote à avoir, finalement, qui t'amène dans toutes les soirées pour célibataires, c'est pas mal.
Mais voilà, c'est ça. L'idée, c'était autant c'est un ami, je lui donne un coup de main, parce qu'en plus, c'est très intéressant. Je faisais des montages pour lui, c'était vraiment super, super sympa. Mais en plus, ça me donnait la possibilité de...
Bien sûr, rencontrer des gens.
De rencontrer des gens, de voir des lieux très intéressants. On est allé au Festival de Cannes, vraiment des choses vraiment passionnantes, quoi. Mais ce soir-là, c'était vraiment le soir où je me suis dit, bah, je n'attends plus rien, parce que ça faisait longtemps que j'étais avec lui et deux, trois autres amis ont gravité dans cette galaxie de célibataires, on va dire, où j'en attendais plus rien. Ce soir-là, je suis allé pour lui donner un coup de main. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un. Et voilà.
Et donc, la fin de soirée.
Et donc, du coup, moi j'étais bien, en fait. Je n'étais pas intimidé. J'étais comme j'aurais pu l'être dans d'autres soirées, dans d'autres circonstances. C'est bizarre, mais ça coulait tellement de sources. Bon, ok, c'est parti. Je n'aime pas danser non plus.
Normalement, tu ne danses pas. Et là, pour Marie-Lucie, tu as dansé.
Je ne danse pas.
Tu as quand même un peu dansé.
Oui, j'ai un peu dansé.
Et alors, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe concrètement? La fin de soirée approche. Comment vous dites au revoir?
Bah, moi, je continue. Enfin, moi, je reste avec, du coup, mes autres amis. Son ami, à lui, a envie de partir. Il est fatigué. Donc, il vient chercher Maxime. On est dehors, tous les deux, en train de parler. Et donc Maxime, on se dit au revoir, hein. Il s'en va, et là je le vois revenir, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il me demande mon numéro de portable. Alors.
Bien.
Encore une fois, chose que je n'ai
jamais fait. Ouais.
Ce que je n'ai jamais fait, mais là je me suis dit, non, mais arrête de déconner. Passe pas à côté de je vais pas dire cette opportunité, c'est un peu bizarre, mais de cette chance. Et j'ai vraiment mis mon manteau, je me suis dit, comme d'habitude, bon, bah, je la recroiserai bien, ou je suis trop timide pour lui demander. J'ai avancé de 2-3 pas. Non, mais non.
Arrête, et là, tu as eu envie de te bouger. Ouais. Oui,
vraiment, ouais.
Et t'as bien fait.
Ah, mais il a bien fait, et d'autant plus que parfois, enfin, j'ai pour habitude de donner un faux numéro.
D'accord.
Je change les 2 derniers chiffres, enfin... Quand franchement, il n'y a pas d'intérêt derrière, ou c'est vraiment des garçons qui sont un peu relous, ou bon. Et alors que là, eh ben, je lui ai donné mon vrai numéro. J'ai rien changé. Donc, et je crois que 5 ans après, on a toujours le ticket de caisse avec le derrière.
Le numéro, génial.
Avec le numéro où j'avais fait des petits cœurs, des petites étoiles.
C'est pour le coup, je conserve tout, et une petite mallette spéciale pour les voyages et autres. Mais
et vous remettez un peu tous les moments clés justement de votre histoire.
Exactement.
Trop
bien.
C'est vrai qu'on pourrait parler des 10 000 d'ailleurs à l'occasion.
Bon, on va en parler. Juste pour terminer sur l'histoire justement de la rencontre. Du coup, qu'est-ce qui se passe juste après? Parce que t'as le numéro, mais toi, t'as son numéro. Est-ce que toi, grand timide, ensuite tu l'appelles? Parce que c'est encore un autre cap à franchir quand même. C'est pas si facile.
Bah, on rentre avec mon ami que j'hébergeais ce soir-là, et bien sûr, on en parle. Il nous a observés, il a dit, voilà, Marie-Lucie, elle a passé son temps à te rechercher. Il a vu que moi aussi, je passais mon temps à la chercher. Il s'est dit, ah, Max, il y a un truc qui se passe. Fais quelque chose, quoi. Selon les canons de drague, on n'est pas censé rappeler dès le lendemain. J'ai envoyé un SMS dès le lendemain. En plaisantant sur les petites anecdotes de la soirée, elle m'a répondu, et puis ça, à partir de là, on a envoyé SMS sur SMS, j'ai jamais reçu autant d'SMS. et puis à partir de là, ça s'est fait tout seul au fur et à mesure.
On a commencé à se voir du coup le soir en fonction de nos disponibilités. Et même de temps en temps, j'avais des envies très spontanées de le voir. Je lui dis, est-ce que tu es dispo ce soir 17h? Il me répondait bien sûr oui.
Trop bien.
Et on allait se voir dans un bar à Paris.
Super. Et alors justement, pour avancer un petit peu dans votre histoire, donc ça c'est le début, c'est la rencontre, vous êtes sous le charme l'un de l'autre. Mais quand est-ce que l'un ou l'autre s'est dit pour la première fois, ça y est, là ça commence à être vraiment quelque chose de sérieux, j'ai envie de peut-être lui dire je t'aime, j'ai envie de vraiment que ça devienne une vraie histoire. Est-ce qu'il y a un moment dont vous vous rappelez l'un ou l'autre, où vraiment vous sentez que ça devenait quelque chose de plus, ben voilà, pas juste un bon moment et quelque chose de naturel, mais vraiment une histoire qui commence à prendre de l'importance?
Bah, avant qu'on s'embrasse la première fois vraiment en disant je t'aime, et j'ai envie vraiment de sortir avec toi et d'avoir une relation sérieuse, un soir on s'envoyait des SMS et il y a eu un quiproquo, pour ainsi dire, sur ce qu'on attendait de la relation avec l'autre. Et du coup, quand il y a eu ça, moi ça m'a fait en tout cas réagir en disant ok, parce que au début, je croyais qu'il voulait plutôt une relation, on va dire, friends and benefits. Donc, au fond de moi, j'étais un peu déçue, parce que moi, je voulais vraiment quelque chose de sérieux. Donc, du coup, je lui ai quand même demandé à nouveau vérification. T'es sûr que tu veux une relation de ce type et non sérieuse? Et si je ne me trompe pas, t'as répondu non, c'est vraiment quelque chose de sérieux.
Et pourquoi t'as pensé ça au départ?
C'est un quiproquo, en fait, dans les SMS qu'on s'est envoyé. D'accord. Le temps. Et du coup, bah, ça... et là, j'ai eu le déclic en me disant... Ok, là tu veux plus que ça, et parce que j'ai des sentiments pour lui.
Alors que moi, c'est un peu le contraire. Enfin, non, c'est exactement la même chose. C'est quand elle m'a posé la question, moi, je ne savais pas exactement si elle voulait une relation sérieuse ou un friends with benefit. Moi, je voulais quelque chose de plutôt sérieux, mais pas forcément sérieux. Enfin, prendre le temps, on va dire, on sort ensemble, puis voilà quoi. Et je lui ai dit non, ben moi je suis plutôt pour en mode on sort ensemble, on est en couple, pas sex friend. Et je lui ai dit ça, et comme je savais pas trop, j'ai eu un petit peu peur, parce que quand bien même on serait sex friend, ça reste quand même une situation qui peut évoluer ensuite en situation de couple. Donc les deux m'allaient, dans tous les cas, je voulais être avec elle. Mais j'avais peur que le fait que ça soit en couple, ça soit trop potentiellement pas ce qu'elle attendait.
Ouais,
en fait.
Un peu engageant et du coup flippant. Pour
mais
elle.
Ça, c'est ce quiproquo qui a fait que j'ai eu un petit coup de stress. mais finalement, j'ai eu les bonnes réponses. Donc,
Est bien qui finit bien. Mmh. Oui. Et à partir de combien de temps est-ce que vous avez commencé, quand vous étiez vraiment ensemble, en fait, à notamment vous présenter les uns aux autres, à vos amis, à votre famille. Donc, il y avait ton ami qui était là tout de suite à cette soirée. Toi aussi, Marie-Lucie, j'ai compris que tu étais avec des amis. Je sais que vous avez une petite différence d'âge et tu m'en parlais justement dans ton mail que notamment la présentation à la famille, c'était pas forcément le truc le plus simple de la Terre. C'est hyper intéressant justement, je trouve, d'en parler. Et combien de temps est-ce que vous avez attendu avant de vous présenter l'un l'autre aux familles et comment ça s'est passé concrètement ?
Les amis, ça s'est fait assez naturellement en fait. C'est aux occasions qu'on avait de me présenter à ses amis et ensuite de le présenter aux miens. Et la question de l'âge, ça s'est posé même pas en fait. C'était vraiment quelque chose de naturel. Mais concernant la famille, ça a été un peu plus dur parce que dans la mienne, on est assez conservatrice. Enfin, il y a certains standards du couple où encore 5 ans, ça passe. Mais 16 ans d'écart, c'est énorme. Enfin, et autant pour ma mère, ça a été assez rapide, les présentations.
C'était assez rapide. Et elle n'a jamais eu aucun problème.
Au bout de combien de temps, du coup, vous diriez, à peu près ?
6 mois.
À peine. Ouais, donc c'est assez
rapide. C'était assez rapide parce que je savais qu'elle était assez ouverte sur ce sujet-là et elle savait déjà à l'âge de Maxime à l'époque. Donc je me suis dit, elle est prête pour le rencontrer.
Parce que ce qu'il faut préciser aussi, ce que tu m'expliquais dans ton mail, c'est que tu étais quand même, toi, assez jeune à l'époque. C'était il y a 5 ans quand même. Et tu étais encore étudiante, notamment. Donc
oui,
aussi,
moi, j'étais étudiante. J'étais en deuxième année de formation en communication. Donc, c'est... Pour ma famille, le plus important, c'était de réussir ses études, alors que la vie sentimentale, quelque part, ça pouvait peut-être attendre après les études. Donc, c'est ne sachant pas comment au début leur dire, et j'avais pas forcément l'occasion parce que moi, je viens de Toulouse et le reste de ma famille est à Toulouse.
Ouais.
J'avais pas forcément l'opportunité. Bien sûr. Le genre de choses qu'on dit pas au téléphone, c'est plutôt le genre de choses quand on les voit.
Comment tu t'y es pris, du coup, notamment avec ta maman?
Pour lui présenter Maxime ?
Ouais.
Tu veux lui raconter ?
Comme Marie-Lucie a dit déjà, elle était largement au courant de mon âge et de ce que j'étais, parce que entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où on a commencé à sortir ensemble, donc entre décembre et février, il y a eu un nombre incommensurable de SMS,
d'accord,
dont à Noël, par exemple, où je lui ai dit mon âge pour la première fois par SMS.
Et, d'accord.
Et quand je l'ai reçu, ma mère était à côté de moi. Donc,
voilà. Et elles étaient en train avec sa mère et sa sœur. Donc, elle était complètement, parfaitement au courant. Et sa mère est particulièrement ouvert d'esprit, donc il n'y a pas eu de problème du tout. Quant à la rencontre physique, on devait se retrouver à Starbucks. Pas très loin de là où logeait Marie-Lucie, et donc j'étais à table, en avance comme d'habitude, j'attends.
Non mais c'est vrai.
Bah, de combien ? Et il y a une dame qui vient me voir, qui dit bonjour Maxime.
Et là tu dis mais qui est cette personne ?
Alors, je ne vais pas dire que je l'avais anticipé, mais j'ai plus ou moins vite compris que c'était la mère de Marie-Lucie et qu'elle m'avait fait
une petite blague.
Bah oui, mais
en fait, c'est quoi l'histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, moi, avec ma mère, donc effectivement, on convient avec Maxime de se rencontrer à un Starbucks, sauf qu'on a une heure de retard parce qu'on allait voir un musée, donc le temps de rejoindre le Starbucks. Et donc, on commande. Et toujours à la fin, il faut attendre les boissons et le repas. Et là, je le repère. Et je me dis, tiens, je vais peut-être lui jouer un petit tour. On va y aller, on va lui envoyer la mère pour voir la réaction. Et donc, du coup, je dis à maman, tu peux pas t'asseoir, t'es un peu fatiguée. Tu vois, en plus, Maxime, il est là-bas. T'inquiète pas, c'est pas grave s'il te connaît pas, tu sais pas quoi tu ressembles, mais vas-y, de toute façon, il est là-bas. Et t'y vas, tu te présentes, enfin, de manière naturelle. Donc, ma mère, comme une fleur, elle y va. Elle va voir Maxime, qui, lui, est complètement surpris. Et moi, du coup, j'attends et je regarde la scène de loin et j'étais mort de rire de voir ça et de voir sa réaction.
Un petit côté sadique, sympa.
Oui, je crois,
mais...
oui. c'est une épreuve quelque part parce que je pense que quand on t'envoie ta mère direct pour tester, enfin, soit le mec peut le prendre super mal. Enfin, là, il l'a super bien pris. Enfin, si...
Oui.
Elle n'avait pas l'air méchante non plus.
Non, elle n'avait pas l'air méchante.
J'ai eu une demi-seconde de blocage. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Puis après, ah bah oui, c'est la mère de Marie-Lucie, donc c'est parti. Encore une fois, la mère de Marie-Lucie est très, très open, très sympathique, souriant. Enfin, il n'y a pas de. Pouvait pas y avoir de soucis.
Et avec le reste de vos familles, du coup, c'était un petit peu plus compliqué?
C'est plus fun déjà.
Ah, qu'est-ce que tu veux dire?
Bah, c'est surtout de mon côté, autant de son côté. Moi, j'ai été très vite adoptée. Par exemple, son père m'appelle le soleil de Sèvres. Enfin...
D'accord. Poétique.
Non, mais c'est très joli comme surnom. Enfin, moi, j'ai jamais eu ce surnom en tout cas.
Ouais. Surtout dans ma famille, sans rentrer dans les détails, on est habitué à des situations un petit peu, on va dire, cocasses.
D'accord.
Donc, bon, voilà.
Ça les choquait pas,
la différence d'âge. Okay. Ils en ont vu d'autres.
Okay.
Et tout de suite, j'ai trouvé des points d'intérêt avec, avec sa mère sur la mode, la beauté, tout ce qui est beauté. Donc, je me suis dit, ça, c'est bon, c'est fait.
Trop bien. Et toi, un petit peu plus compliqué du coup de ton côté, mais bon.
Bah, c'est pas compliqué. Ça a été compliqué parce que j'osais pas et je savais pas comment le tourner et leur annoncer cette partie d'âge. Et donc parfois quand on est allé à Toulouse voir mes parents et mes grands-parents, ils savaient pas l'âge de Maxime et parfois ils essayaient de me le dire mais moi je disais rien. Je fais oui, je sais plus trop exactement, il faudra que tu leur lui demandes et tout. Parce que je n'osais vraiment pas leur dire. Et parfois, une fois, on était dans une situation assez marrante. Parce que pour l'anniversaire de mon père, il a organisé un blind test sur les musiques de la génération Dorothée.
D'accord.
Donc, il faut savoir qu'à l'époque, entre guillemets, mes parents et en tout cas l'entourage croyaient que Maxime avait 28 ans.
D'accord.
En moyenne. Oui, entre 28 et 30.
D'accord. Alors qu'il avait plutôt 35-36.
Il avait 36 ou 30, ouais, 36.
Okay.
Et le plus drôle, c'est qu'il a gagné ce blind test. Et tout le monde a dit, mais comment tu sais tout ça? Les chansons de Dorothée, pourtant...
Ouais, c'est pas ta génération.
Ouais, quoi. Voilà, c'est pas ta génération. Et donc, du coup, pareil, à l'intérieur, j'étais morte de rire parce que moi, je savais l'âge, mais pas eux.
Et donc là, tu leur as même pas dit à ce moment-là?
Non, je leur ai même pas dit. Qu'est-ce que j'ai dit comme excuse? J'ai dit, ah oui, mais c'est ça d'être geek, ça rajeunit.
D'accord. Voilà, bah, elle a réponse à tout.
D'être intéressé, d'être curieux sur tous les trucs d'avant.
J'ai vanté cette qualité.
Non, mais c'était une bonne répartie pour le coup.
C'est clair, c'est clair.
Et pourtant, je crois qu'à un moment donné, mon père m'a posé la question de quel âge, l'âge réel de Maxime. Voilà, bien sûr, j'ai pas pu...
T'as dit la vérité, ouais.
Voilà. Et donc, du coup, je lui ai dit, il avait... T'es pas choqué? Ok, mais j'ai pas eu non plus
une validation.
Plus de réactions en fait. Donc du coup, je me suis dit bon, il réagit pas de manière négative, donc ça veut dire que c'est bon. Il va pas regarder plus en détail. Enfin, il va pas s'attarder là-dessus.
A priori, c'était beaucoup d'inquiétude pour pas grand-chose, à mon sens, et que même s'ils en pensent pas moins parce que ça ne correspond pas à leur jugement de valeur et autres, c'est pas pour autant qu'ils sont critique ou distant, c'est pas forcément leur truc, mais ils l'acceptent dès l'instant où je pense leur fille ou leur petite fille est heureuse.
Bien sûr.
Tu te rappelles, non mais une fois à Toulouse, mon grand-père maternel voulait nous emmener visiter le musée de l'aéronautique. D'accord. Et il demande la carte d'identité. Donc lui, il avait besoin de nos dates de naissance.
Ben voilà.
À l'époque, il ne savait pas. Donc du coup, j'ai eu un moment de panique. J'ai appelé avec maman. J'ai fait, mais comment je fais?
Ah ouais, donc t'étais quand même un peu dans l'optique de cacher, enfin d'atténuer la vérité, on va dire.
Oui, parce que j'avais. Il faut pas qu'il le prenne mal. Enfin, je pense qu'il l'a jamais pris du fait que je cache d'une certaine manière. C'est que j'étais pas prête ou parce que je savais pas comment l'annoncer. Bon, après, là, suite à cette histoire de musée, j'ai quand même envoyé sa date de naissance. J'ai pas eu de retour suite à cela. Maintenant, de toute façon, tout le monde est au courant de l'âge de Maxime. Donc,
Et tout se passe bien. Bon,
tout
tant
se
mieux.
Passe bien.
Et dans les prochaines étapes du couple, il y a une étape qui est importante dont on parle souvent dans le podcast, c'est l'emménagement. Je sais que vous avez emménagé ensemble depuis un petit moment maintenant. Et alors, un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est une fois qu'on a emménagé ensemble, comment ça se passe, la vie à deux, quand on n'était pas, avant, en fait, dans ce cadre-là? Est-ce que vous pouvez parler un petit peu justement de comment est-ce que ça s'est fait, de la discussion pour arriver à ce point-là? Puis après, on parlera justement de tous les sujets passionnants que Maxime évoquait avant qu'on commence l'interview, à savoir le rangement, le fait d'être très ponctuel.
C'est lié.
Et la répartition des rôles dans le couple. Donc déjà, est-ce que vous pourriez me dire, bah, peut-être toi Maxime, comment est-ce que ça s'est fait justement cet emménagement ensemble? Quelle discussion vous avez eu à ce sujet?
Alors, l'emménagement, ça a assez coulé de source, en fait, parce que Marie-Lucie était à son appartement, mais enfin, était censée habiter à son appartement, mais passait le plus clair de son temps chez moi, en fait. Donc, petit à petit, il m'est trotté dans la tête, mais au bout d'un moment...
Ouais, ça n'a pas de sens de payer de loyer, quoi.
Oui, c'est ça, ça ne sert à rien. T'es jamais là-bas, t'es toujours là.
Surtout que c'était mon grand-père qui me payait le loyer.
Oui, parce que t'étais étudiante, en plus.
Pourquoi pas réfléchir ? Là, c'était vraiment dans ma tête. J'en avais parlé à personne, ni quoi que ce soit. Ce serait peut-être pas forcément déconnant qu'elle vienne habiter à la maison, il y a de l'espace, il y a de quoi faire, allons-y, quoi. Et le moment déclencheur, c'est quand sa mère a évoqué l'idée. Elle m'a même appelé : « Ah, Maxime, est-ce que tu serais pas intéressé éventuellement d'habiter avec Marie-Lucie et tout ?» Dans d'autres circonstances, je me serais senti forcé, chose que je n'aime pas particulièrement. Mais comme là, j'avais déjà réfléchi, je me suis dit : « Bah ok, je suis complètement prêt à ça. J'en ai pas encore parlé parce que il y avait pas encore vraiment le moment, mais le fait que sa mère en parle, ça faisait une mécanique qui faisait que allez, c'est parti.
Et c'était au bout de combien de temps de relation à peu près ça ?
Ça fait 2 ans qu'on est ensemble.
Oui, donc vous avez vous avez mis un peu de temps quand même
pas
avant de vous laisser.
Un an et demi. Moins d'un an et demi, il me semble.
Ou un an, minimum un an.
Allez, on va dire un an. Mais un an, tu comptes avant qu'on sorte ensemble ?
Bon, une petite année.
Ça a été assez rapide, en tout cas, à mon sens, dans mes souvenirs.
Ouais. Et alors, comment ça s'est passé, justement, l'emménagement ?
Épique. Donc, comme évoqué Maxime, en fait, alors, j'ai pas mon propre appartement. Je louais une chambre chez une dame dont mon grand-père me payait le loyer. Donc, effectivement, au début, c'était quelques jours. Après, ça devient des semaines. Et après, ça devient des mois où la dame me voit plus.
Ouais.
Donc, il me propose, j'accepte. Et bien sûr, ma logeuse, elle me dit non. Elle me dit non, parce que...
Tu t'es engagée normalement pour une certaine durée ou quelque chose comme ça ?
Non, mais elle avait besoin de moi, enfin, des sous surtout, et qu'elle n'avait pas de backup concrètement pour reprendre quelque part à nouveau louer la chambre. Donc moi, assez têtue et un peu, je dirais pas arrogante, mais un peu j'ai envie de faire ce que je veux, rebelle quoi, j'ai dit si c'est comme ça, je fais mes clics et mes claques et je pars. Donc ça s'est passé sur une semaine. Le premier week-end elle était là, donc j'ai juste appelé un copain en lui disant qu'il y a une voiture, que j'ai besoin d'un peu de son aide pour transporter quelques valises. Donc je lui ai dit oui, mais c'est juste pour me débarrasser de ça, j'ai besoin d'aide. Donc j'ai inventé un bobard pas possible, alors qu'en fait c'était mes affaires déjà de mes placards. Et donc du coup, en fait, pendant la semaine elle est partie en vacances. Donc du coup, tout le reste, j'ai déménagé.
Mais t'as quand même tout fui pendant qu'elle était en vacances.
À moitié, allez, à moitié clean. Mais donc du coup, j'ai tout déménagé, ça s'est fait très rapidement. Et du coup, je suis partie, je lui ai laissé le dernier loyer sur sa table avec un petit mot, le petit mot était très gentil, je lui ai dit je vous remercie de m'avoir logé durant toutes ces années et de ce que vous avez pu faire pour moi.
Et l'emménagement ensemble, du coup, comment ça se passe ? Comment se passe la cohabitation alors que vous n'aviez jamais réellement quand même habité complètement à temps plein ensemble ?
Non.
Alors, c'est là
faut prendre ses marques au début.
Il faut prendre ses marques, en tout cas pour toi, parce que moi, c'était...
Ouais, c'était ton appart.
C'était mon appart. Bon, maintenant, c'est le nôtre. C'est très important à ce niveau-là. Mais moi, de mon côté, encore une fois, j'étais prêt. Et puis en plus, c'est là où on en revient au côté rangement un petit peu maniaque.
Vas-y.
À essayer d'optimiser l'espace et autres, j'ai fait en sorte de mes affaires sont ici, donc je vais plutôt les mettre ici pour laisser la place aux siennes. Réfléchir, par exemple, c'est une anecdote bête, mais le lit était très très bas de plafond, très très au ras du sol.
D'accord.
En fait, et là je me suis dit tiens, si on redressait le lit en mettant des pieds plus haut et en dessous on va mettre des rangements supplémentaires.
Ouais,
plein de petites
choses. Non, mais si, c'est important. Enfin, du coup, il a créé de l'espace pour toi, quand même.
Ah non, tu regarderais l'appartement, en fait, maintenant, il y a une grande différence entre quand il était célibataire et quand, depuis que je suis arrivée. Maintenant, tu vois, t'as plein de make-up partout, de crème partout.
Je suis sûre que Maxime est ravie.
Mais justement, non, pas partout. Parce que quand c'est trop
dans
partout, c'est là où j'interviens.
D'accord.
C'est là où je me pose au milieu d'une pièce, je me tourne, et comment est-ce que je pourrais optimiser le rangement, l'espace et autres. Quand il y a trop de make-up, soit éventuellement orange, soit je lui dis à Marie-Lucie, est-ce que tu es sûr que tu as vraiment besoin de tout ça? Ou est-ce qu'on pourrait pas trouver un moyen de ranger mieux, de faire en sorte que ça soit plus facile d'atteindre telle ou telle
chose? D'accord, donc tu es très dans l'optimisation, mais ça a l'air d'être assez rationnel. Hein. Et puis j'ai l'impression que du coup, c'est fluide parce que c'est toi qui ranges. Donc est-ce que vous avez une répartition quand même des rôles un peu à la maison? Donc plutôt rangement de ton côté, d'après ce que je comprends.
Par défaut, oui.
Ah, et cuisine aussi.
Et cuisine.
Cuisine.
Majoritairement, c'est moi qui cuisine.
En fait, c'est parti d'une.
C'est bien un couple moderne.
Exact. Et non, mais l'origine du fait qu'il fasse la cuisine, c'est quand j'étais en études et que je venais chez lui, concrètement, je bossais le soir jusqu'à 21h, parfois minuit. Donc, j'avais concrètement pas le temps de faire à manger. Donc, gentiment, il me faisait à manger. Et post-études, on a gardé cette habitude, même si maintenant, j'essaye de temps en temps de faire un peu
de
la
contribuer.
Cuisine.
Et donc, quoi est-ce que tu contribues, du coup, dans la vie de l'appartement, Marie-Lucie?
Je lui apporte du bonheur et de l'amour.
C'est très important. Bravo, félicitations. Très bien, un couple très moderne.
Non, mais là, sinon, enfin, de manière très pragmatique, il fait le rangement, moi je fais le...
plus
C'est plus toi qui passe. Comme j'ai dit, je suis pas poussière et autres.
D'accord,
donc, du coup,
plus rangé, mais
rangé,
très
voilà.
Bien. Et toi, t'es propreté. Parfait.
Voilà, c'est ça.
Sachant que l'aspirateur, on avait acheté un des derniers aspirateurs de chez Dyson, c'est initialement son idée pour qu'il ait la motivation de le faire.
Et en fait, rien changé du tout.
En fait, finalement, c'est moi qui le passe.
Très bien. Je crois que maintenant aussi, vous êtes paxé, d'après ce que j'ai compris.
Oui.
Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu qu'est-ce que ça signifiait pour vous de vous paxer? Est-ce qu'en fait, c'était honnêtement purement administratif, ce qui arrive à pas mal de gens dans ce podcast? Ou est-ce qu'en fait, finalement, ça avait quand même un sens pour vous, parce que c'est quand même une étape importante dans un couple? Comment est-ce que ça s'est passé?
Les deux.
Oui, les deux.
On ne peut pas se cacher la face. C'est comme la majorité des couples, c'est quand on ne se sent pas forcément prêt pour le mariage. Le pax, c'est une étape. C'est une première étape. C'est, effectivement, il y a derrière quand même une signification dans l'évolution du couple. OK, là, c'est bon. C'est plus que, on va dire, un copain. Ça devient vraiment un compagnon avec qui j'ai envie de passer le reste de ma vie. Mais on ne se cache pas. Enfin, moi, je n'ai pas honte de le dire. Bah, c'est qu'en même temps, j'ai les mêmes avantages que si j'étais mariée.
Bien
et
sûr.
Donc,
Mais
il y en a... Moi, j'ai eu des réactions de gens qui m'ont dit « Ah, mais tu te paxes... »
Mais pourquoi tu ne te maries pas,
pourquoi tu ne te maries pas dans ce cas-là, juste te paxer pour avoir les avantages financiers. Et du coup, parfois, ils ont du mal à comprendre. Mais bon...
Bon, moi, je trouve que c'est étape par étape, effectivement, oui. Quand je l'ai proposé, c'était parce que j'avais l'impression que c'était le moment de proposer ça. Pas le mariage, mais on avait emménagé, donc ensuite le pax, donc ensuite le mariage.
Le mariage, on n'y est pas encore, mais bon, je peux pas m'empêcher en tant que joaillière de vous quand même poser la question de déjà ce que vous en pensez au sens, parce qu'on a déjà eu des personnes dans le podcast qui étaient pas forcément pour le mariage, qui ont fini par se marier d'ailleurs, c'est assez rigolo, mais qui n'étaient à la base pas pour. Vous, en fait, vous avez une idée là-dessus, vous pensez que ça va venir un jour, c'est pas une institution qui vous plaît, vous avez pas forcément pour objectif de vous marier. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Est-ce que vous en avez déjà parlé? Ou est-ce que je mets complètement les pieds dans le plat?
C'est possible? On a déjà parlé de ce sujet. Et, le mariage, c'est un peu, à ma façon, il le sait, c'est encore une étape supplémentaire où moi, du coup, je vais avoir son nom de famille. Voilà, ça a encore une signification plus forte. Après, tout ce qui est histoire de demande, de quand on va le faire, ça, il faut poser la question à Maxime. Hein.
D'accord. Mais vous êtes sur le concept, vous êtes OK, en fait.
Oui, sur le concept, on est OK.
Complètement, on est OK. C'est une question de moment. C'est surtout une question de... Il faut le ressentir. Il faut trouver le bon moment pour faire la proposition. Et ça, c'est important.
Ah oui, parce que je lui ai dit, en fait, les façons dont je veux pas qu'il me fasse la proposition.
D'accord.
Alors déjà, la bague dans le champagne, dans la coupette de champagne, c'est mort.
C'est pas possible.
En même temps, j'aurais jamais pensé. Hein. C'est trop cliché. Mais voilà, c'est le mariage commence par la proposition. Et la proposition, au bon moment, au bon endroit. Voilà.
Très bien.
C'est un côté très pragmatique.
C'est le côté un peu organisationnel, on voit de Maxime. Mais c'est bien,
Mais pas forcément organisationnel, parce que je vais pas prévoir le moment où je vais te proposer. Éventuellement, ce moment-là, j'aurais pas du tout prévu. Bah, un peu comme le pax. Techniquement, le pax, on
en
a parlé un soir, et parce que c'était le feeling, et puis on a dit, allez hop, on le fait. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. Si on se sent forcé par rapport à tous nos amis sont mariés, tous nos amis ont des enfants, tous nos amis, si on se sent forcé, ça perd de son charme, de sa, ça n'a pas de sens.
Complètement. Et tu me parlais aussi dans ton mail, et évidemment, vous n'êtes pas obligé de répondre si jamais c'est indiscret, mais du fait que les enfants, ce n'est pas forcément une priorité pour vous, parce que forcément, tu es un petit peu plus âgé, Maxime, et puis peut-être que juste, ce n'est pas votre truc, ce qu'on peut complètement comprendre. Est-ce que vous pouvez m'en parler aussi?
C'est vrai que du fait de la différence d'âge, mais surtout de l'âge de Maxime, d'avoir 41 ans, je vais faire très cliché, mais normalement, 41 ans, un homme, il est marié, il a potentiellement des enfants, il a une vie active, et potentiellement, allez, on continue, on pousse le cliché encore plus loin, il a le chien.
D'accord.
C'est vraiment très cliché.
Et une maîtresse.
Éventuellement. Allez, allons-y.
J'ai tout sauf le chien, en fait.
Et donc, effectivement, on s'attend à ça, mais après, tu me dis si je me trompe, mais il n'est pas dans cette optique. Donc, du coup, moi qui ne suis pas encore dans l'optique d'avoir des enfants, c'est pas.
Vous êtes content d'attendre.
Ouais, on est content d'attendre et je n'ai pas une sorte de pression qui pourrait exercer sur moi là-dessus.
Moi, de mon côté, les enfants, c'est effectivement pas tout à fait ma priorité. J'aimais bien ça quand j'étais gosse. Et puis, à un moment donné, ça ne m'a pas vraiment plus donné envie que ça. Donc, je ne suis pas super pressé. D'autant plus que le premier soir où j'ai rencontré Marie-Lucie, elle m'a dit « De toute façon, les enfants n'ont pas avant 30 ans. »
Très bien.
Donc moi, je suis dit banco. J'ai le temps de m'y faire.
Tu es rentré en matière assez rapidement quand même.
Ah, mais je préfère prévenir parce que, pour éviter les mauvaises surprises. C'est bien de passer 2 ans de couple et qu'au bout, éventuellement, de la troisième année, je lui dise « Ah bah moi, c'est pas avant 30 ans » et que dans ce cas-là, il me dise « Ah oui, mais moi, j'ai envie de gosse
ouais. »
d'un désaccord et éventuellement qui peut déboucher sur une rupture. Là, pour le coup, dès le départ, j'annonce la couleur.
Très bien, parfait. J'aime cette organisation, c'est beau. Si on est un peu plus fleur bleue, parce qu'on est quand même dans le podcast C'est le Chalove, il y a une question que j'aime bien poser, qui n'est pas facile, je vous préviens.
D'accord.
Mais c'est qu'est-ce que pour vous, l'autre vous a le plus appris ou qu'est-ce que l'autre a le plus changé en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'autre a fait dans son comportement ou, je ne sais pas, vous a donné confiance en vous, vous a fait réaliser quelque chose sur vous-même ou sur l'amour ou sur l'autre ou sur je ne sais quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont changé en fait depuis que vous êtes en couple?
Tu veux commencer?
Non, vas-y.
Ok, d'accord.
C'est le temps de cogiter.
Ma réponse va peut-être être un petit peu bateau, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours été très, très timide, beaucoup de difficultés à trouver quelqu'un, à rencontrer. J'ai eu vraiment des périodes de célibat assez longues d'ailleurs, de doute, et aussi des personnes avec qui je suis sorti, mais avec qui ça ne collait pas. Et en fait, comment dire, Marie-Lucie m'a apporté comme ça va la faire rigoler, mais elle m'a redonné confiance en l'amour.
Franchement, tu peux pas me faire plus plaisir sur Chalalove que de dire quelque chose comme ça.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'y arrivais tellement pas, les rencontres que je faisais
ne me satisfaisaient pas
d'une certaine manière d'un côté ou de l'autre, mais pas pleinement en fait. Et avec Marie-Lucie, ça a tout de suite été. Ok, là, je suis pleinement heureux, en fait. Et ça m'a permis, en fait, de découvrir que... Parce que, aussi, avec ces autres personnes, partir en vacances, ça me faisait un petit peu chier, ça m'embêtait, pardon. Des trucs en commun, aller au resto, regarder des choses à la télé, aller au ciné, c'était pas quelque chose sur lequel je voulais m'investir. Des petites choses bêtes ou des plus grosses choses, c'est... mon côté un petit peu geek, tous les geeks sont pas comme ça, un peu en retrait, bien aimé être casanier chez soi devant sa console, je préférais ça plutôt que faire quelque chose avec la fille avec qui je sortais, quoi.
Je comprends.
Là avec Marie-Lucie, je suis toujours aussi casanier, geek et autres, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas l'impression de faire des efforts. Pour moi, ça coule de source, j'ai envie de faire ces choses là quoi. C'est pour ça, pour moi, c'est vraiment ça coule de source d'être avec elle.
Bon, écoute, Marie-Lucie, maintenant, tu vas devoir me dire quelque chose d'également mignon et sympathique.
T'aurais dû commencer.
Oui, j'aurais dû commencer, effectivement. Je suis de nature assez angoissée comme personne. Et c'est vrai que j'ai besoin de temps en temps qu'on me rassure et qu'on me calme, en fait, parce que sinon, je vais être angoissée. Et du coup, je doute de ne pas avoir forcément confiance en moi. Et quand depuis que j'ai rencontré Maxime, on va dire que c'est un peu plus stable, tout ça. Il me permet d'avoir confiance, de me rassurer quand j'ai besoin de m'orienter, d'avoir un avis extérieur, que ce soit sur mes choix par rapport personnel, sur mes choix professionnels. Par exemple, en fin d'année, j'ai changé de travail Mais c'est... j'ai jamais été confrontée à ça. Et c'est assez difficile comme situation de démissionner parce qu'on part pour quelque chose dont on ne sait pas ce que ça va donner. C'est quasiment l'aventure. Donc, il était là, en fait, pour me rassurer et de me dire, mais vas-y, n'aie pas peur et confiance. Parce que de toute façon, si j'ai été embauchée dans mon nouveau travail, ça veut dire que de toute façon, j'ai les compétences. Et du coup, il le fait tout le temps, en fait, cet aspect-là. Et parfois, ce que j'aime bien lui rappeler, et je crois qu'il m'a offert un collier, c'est une flèche comme ça, pour dire qu'avec toi, finalement, je suis stable, je me sens bien, je suis heureuse. Quoi. Et c'est bien parce qu'il a un côté geek, en fait. Donc, il garde malgré tout un côté enfant. Et c'est génial, ça. On peut se taper des délires sur des choses vraiment pas très sérieuses. Comme justement, et je pense que c'est ça son point fort, le fait d'être plus âgé, contrairement à des petits amis qui avaient plus ou moins le même âge que moi, c'est qu'on peut parler de sujets
plus profonds,
très sérieux, quitte à avoir des discussions existentielles.
D'accord. Bon, merci en tout cas pour ces beaux partages. J'ai encore quelques petites questions. Mm-hmm. Un sujet que j'aime bien poser, mais peut-être que ça ne vous concerne pas, c'est le sujet des disputes. Les couples, en général, ça se dispute quand même, ça arrive. Est-ce que vous avez un peu un sujet de dispute, peut-être le rangement, qui arrive, qui est récurrent? Et surtout, comment est-ce que maintenant que ça fait quand même 5 ans que vous êtes ensemble, vous arrivez à désamorcer les disputes, et à passer à autre chose, et finalement à vous remettre ensemble et vous rendre compte que ce n'est pas le plus important? Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu tout ça?
Moi, de mon côté, ce que je pense, ce que je constate, c'est qu'on n'a pas à désamorcer des disputes parce qu'il n'y a pas vraiment de dispute.
D'accord.
Si on parle du rangement, des vêtements qui traînent et tout, je n'ai pas commencé à gueuler. J'ai éventuellement froncé les sourcils parce que c'est un petit peu le bordel, je ne suis pas content. Mais il n'y a jamais eu d'engueulade.
De grosses disputes.
Vous ne faites pas de grosses engueulades.
Non, c'est en fait notre logique, c'est de
parler.
C'est ça. C'est pourquoi monter le ton? Je ne suis pas content de quelque chose, tu n'es pas content de quelque chose, on en parle.
Même si ça ne fait pas plaisir.
Oui, c'est ça, en plus. Ouais.
Et justement, de temps en temps, je lui ai dit que c'est bien d'avoir en face une personne qui ne va pas forcément te caresser dans les sens du poil parce que tu fais mal quelque chose et qui, quand tu déconnes, elle te le dit franchement. Et elle ne va pas passer par quatre chemins, elle est très directe. Alors, c'est sûr, parfois. Ça ne fait pas forcément plaisir à entendre. Je préférerais peut-être entendre plutôt qu'elle me caresse dans le sens du poil. Mais en même temps, c'est moi qui lui demande d'être honnête. Je préfère ça, quitte à parfois ce ne soit pas agréable. Mais au moins, je sais que c'est sincère et que derrière, ça ne commence pas encore.
Oui, puis c'est qu'il veut ton bien. Mais tu aurais un exemple, par exemple, de quelque chose qu'il t'aurait dit peut-être récemment
On parle des habits sur Vinted ou des achats?
Ah oui. Oui, comme quoi j'avais raison, oui.
Non, mais c'est vrai que, un peu comme certaines filles, j'aime bien acheter sur un peu des vêtements. Et c'est vrai que parfois, quand je vois le compte à la fin du mois, alors je ne suis pas dans le rouge, il me reste de quoi vivre, mais je m'inquiète un peu. Du coup, je commence à me plaindre. Je crois que j'ai pleuré une fois.
Une fois?
Une fois.
Ouais, quelques fois.
D'accord. Bon, voilà, en disant, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. Et en fait, au lieu de me dire, mais t'inquiète pas, ça va se rétablir et tout, il me dit.
Regarde tes derniers achats et en fait, tu vas comprendre.
Est-ce que j'ai vraiment besoin en fait, d'acheter tout ça?
Pourquoi est-ce que tu as fait cet achat? En avais-tu besoin? Pourquoi tu le regrettes maintenant? Parce qu'il y a des raisons qui font qu'elle le regrette alors qu'elle n'a pas à le regretter, des bêtises,
ouais.
Des faux problèmes, on va dire. Donc moi je vous dis de mon point de vue, après je ne juge pas, là vous allez dire peut-être potentiellement c'est très masculin de dire ah pourquoi t'as encore acheté une paire de chaussures, il y en a plein dans le dressing, mais c'est pas masculin, c'est plus pragmatique, c'est pourquoi tu as acheté ça, pourquoi tu le regrettes, pourquoi t'en as voulu, pose-toi ces questions et ensuite...
Essaye de ne pas reproduire ça à l'avenir.
Non, pas forcément, essaye de ne pas reproduire, c'est demande-toi si c'était la chose à faire, si tu le regrettes ou pas. Si tu le regrettes... agir en conséquence la prochaine fois. Si tu le regrettes pas, assume.
Je suis toute jeune, on va dire, sur le marché du travail. Donc, quand on reçoit ses premières payes, on est en mode, youpi, c'est génial. Donc, effectivement, on a tendance un peu à dépenser. Mais effectivement, le fait qu'ils me le disent franchement, ça me fait mûrir à ce niveau-là et d'apprendre à plus me responsabiliser et à assumer, en fait, finalement, mes achats. Et du coup, je fais beaucoup de progrès.
bravo.
Mais encore une fois, je
oui, mais je comprends que tu juges pas
du tout.
Ouais,
c'est
j'ai bien compris.
C'est pas dans une logique.
Si elle vient se plaindre, dans ce cas-là, j'ai à donner mon avis.
Ouais. Ouais. Mais c'est pas dans voilà, c'est pas juger, c'est pas faire la morale de me parler comme si j'avais 5 ans, à me dire ah c'est pas bien.
J'espère.
Non, moi je le prends vraiment pas comme ça.
C'est plus c'est de l'entraide, vous êtes alliés quoi. Ça fait plaisir.
Oui, donc du coup après ça fait effectivement mûrir sur le sujet, donc je fais des progrès. Et du coup maintenant je me pose la question, est-ce que c'est vraiment utile quoi ce type de choix ? Voilà, c'est juste ça.
Bon, super. Et du coup, ma dernière question, une que j'aime bien poser, c'est tout simplement, si vous reveniez 10 ans en arrière ou quelques années en arrière, donc toi quand tu étais une petite fille, toi Maxime quand tu étais plus jeune, est-ce que vous pourriez, et que tu croyais pas à l'amour par exemple, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qui pour vous est aujourd'hui le secret du bonheur à deux ? Qu'est-ce qui fait en fait que ça marche ? Et qu'est-ce qui fait que dans votre cas ça marche ?
On a 4 heures pour le faire.
De copies doubles. Qu'est-ce qui marche par expérience?
Un conseil pour nos auditeurs.
J'ai paraphrasé le film Hitch. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il ne faut pas se donner de pression. Et Dieu seul sait si je me suis donné des pressions durant des années et des années. Il faut que j'essaye ci, il faut que j'essaye tel site, il faut que j'essaye de m'habiller comme ça, il faut que je parle comme ça. J'ai écouté mes amis qui étaient des dragueurs, des beaux parleurs et tout. Bah, les filles, il faut que tu leur parles comme ça, les filles, etc. Ce que je ne pouvais pas faire parce que ce n'était pas mon style. Et on se met énormément de pression pour pas grand-chose. Alors, c'est sûr, dans certains cas... trouver la bonne, si on trouve la bonne, malheureusement c'est pas une certitude, ça peut prendre du temps et il faut vraiment être patient.
Puis il faut essayer aussi, parce que j'ai l'impression quand même que tu te donnais les moyens de le faire, tu vois, t'étais pas non plus tout seul dans ton coin.
Faut pas hésiter, de l'instant on le sent, c'est toute une question de feeling. Se forcer, de toute façon ça va se voir. C'est « Oula, lui, il est en train de me faire un truc, là. » Et je le sais, je l'ai fait. Et ça n'a jamais marché. Donc, faut essayer. Et ce n'est pas facile, je le sais bien. Il faut essayer d'y aller tranquillement, naturellement, pas trop en attendre. Et viendra ce qui viendra. You can't hurry love. You just have to wait.
Donc, ne pas trop se mettre la pression.
C'est ça,
complètement. Et pour toi, Marie-Lucie ?
Je dirais d'être patiente, effectivement, et surtout de ne pas attendre, en fait, quelque chose. Parce que parfois, enfin, comme tout le monde, j'avais des critères du garçon idéal. Si je devais les suivre, techniquement, Maxime devrait être blond, aux yeux bleus, un peu plus musclé, avec les cheveux courts. Bon, sauf erreur de ma part, c'est pas le cas. Donc, c'est peut-être s'ouvrir, en fait, surtout l'esprit, et de se dire, de pas s'arrêter aux critères qu'on a. C'est effectivement, pour moi, il y en a certains qui sont incontournables, hein, le respect, l'honnêteté, enfin, cela. Mais après, les critères physiques, je pense qu'il faut savoir passer au-dessus, parce que sinon, on peut rater des occasions.
Des belles rencontres.
Ouais, belles rencontres, exactement.
Bon, bah merci à tous les deux pour ce partage, et puis je vous dis certainement à très bientôt.
Si.
À très bientôt, au revoir. Bonjour à tous et quelques derniers petits détails avant de vous quitter. Alors d'abord, vous pourrez retrouver cet épisode et les liens vers les contacts de nos invités sur le site de Gémio, www.gemio.com, rubrique podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire sur Instagram ou Twitter si leur histoire vous a touché. Si vous souhaitez nous suggérer de nouveaux invités ou peut-être même nous proposer votre histoire d'amour, eh bien envoyez-nous tout simplement un email avec un peu de détails sur votre relation à l'adresse email suivante, partenariat@gemio.com. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram au pseudonyme Gemio, G-E-2-M-Y-E-C-O, pour être sûr de ne louper aucun épisode et découvrir l'envers du décor de nos podcasts. Enfin, si vous voulez nous donner un peu d'amour à votre tour et que le podcast vous a plu, eh bien n'hésitez pas à simplement nous mettre un petit mot doux ou même une note 5 étoiles sur l'application iTunes. Ça nous aide énormément à répandre tout cet amour autour de nous. Une merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Chalalove.